Donc bah déjà, je voulais vous dire que j'étais ravie d'être là ce matin. Donc nous venons de Bernay, donc de Normandie effectivement, et comment toute l'église de Bernay d'ailleurs vous salue, hein, dont le pasteur Loïc et son épouse Sarah. Voilà, comme ça j'ai fait les salutations. Alors je m'appelle Gwenick, j'ai 39 ans. Oui, tout à fait. Je suis mariée avec David depuis 16 ans maintenant. Nous avons deux enfants, Mathieu qui va avoir 12 ans et Noémie qui a pris 8 ans. Alors, donc en ce qui me concerne, ce que je souhaitais donc vous partager ce matin, c'est effectivement ma conversion et tout le cheminement qui s'est fait après par la suite. Donc, toute petite, en fait, j'avais entendu parler de Dieu puisque j'avais été baptisée, j'ai fait ma communion. Pour autant, en fait, ma connaissance de Dieu, elle était un petit peu limitée dans ce sens où, en fait, ça se résumait qu'à prier Dieu quand ça n'allait pas. Donc, c'est souvent, hein, quand on est jeune, que ça ne va pas comme on veut. Et donc, c'était toujours dans ce sens-là. Hein. Donc, vous voyez, c'était un petit peu limité au niveau de ma relation avec Dieu. Et puis, à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré David. Donc on se connaissait déjà depuis le collège. Je savais que David était chrétien dans ce sens où son papa était pasteur de l'église de Bernay. Donc voilà, je savais qu'il avait une vie chrétienne. Voilà. Pour autant, quand je lui posais des questions pour savoir comment ça se passait, ce qu'il vivait en retour, j'avais pas beaucoup d'écho. Il me disait toujours, bah, écoute, je peux pas te décrire ce que je vis. Faut que tu viennes à l'église, faut que tu vois. Alors, un jour, effectivement, comme dit Antoine, quand j'ai eu 19 ans, David et sa famille m'ont invité à une des premières rencontres que la fédération avait organisée pour les jeunes, UAPM. Donc, je me suis rendue là-bas. Autant vous dire que, bon, j'ai été la première réunion un petit peu surprise, hein, parce qu'il y avait tous ces jeunes-là qui avaient le feu. Je crois qu'il y avait déjà Virginie qui sautait déjà à cette époque-là, vraiment avec une foi très forte. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, je me suis demandé où j'étais tombée. Hein. J'étais pas très... Et puis, il y a, Freddy... le pasteur Freddy Soriano, qui ce soir-là a apporté un message qui m'a profondément touchée. Autant j'avais entendu parler de Dieu quand j'étais petite, autant ce soir-là j'ai vraiment rencontré Dieu. Quoi. C'était vraiment très fort, j'ai ressenti vraiment sa présence dans mon cœur. À partir de là, ça a été un nouveau départ pour moi, parce que je n'avais pas toujours fait des choses très belles auparavant, et j'ai pu vraiment demander pardon et partir sur quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Donc, s'en est suivi à partir de là mon baptême. 2-3 ans après, nous nous sommes mariés. J'ai compris à travers tout ça, en fait, que ma relation avec Dieu n'était pas une religion, mais que c'était vraiment une relation. Et ça a été une révélation. Tout à l'heure, on a chanté « Tu déchires le voile », mais c'était tout à fait ça. J'avais pas vraiment compris la dimension de Dieu, et là, j'ai vraiment compris que c'était vraiment une relation qui allait commencer à travers la parole, à travers l'écriture, à travers les prières, à travers la louange. Il m'a beaucoup restaurée parce que j'avais des blessures du passé. Il m'a beaucoup à travers les épreuves que j'ai pu passer, il a façonné ma personne, mon caractère. Il y a quelques années, on m'aurait dit « tu viendras là témoigner », je t'ai caché comme une autruche dans un trou. Hein. Il a vraiment... il est vivant, c'est un Dieu vivant. Hein. Et il est vraiment fidèle, et il m'a gardé dans les décisions que l'on a pu prendre. Il m'a repris parfois quand j'étais pas sur le bon chemin, mais toujours dans cette orientation qu'il fallait prendre du temps avec lui. Voilà, ça c'était très important. Alors là, nous arrivons à une période de notre vie où les choses bougent, hein, dans ce sens où le Seigneur nous a donné beaucoup de choses, mais David va vous les partager. Et aujourd'hui, il reste pourtant le Dieu fidèle. Aujourd'hui, on part, on ne voit pas parce qu'on est dans le départ. Donc, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. C'est notre foi qui est mise en action. Comme dit ce chant, on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Et là, je peux vous dire qu'on est en plein dedans. Mais je voulais vous témoigner de cela ce matin, parce que je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu, mais là où vous en êtes, sachez que c'est vraiment un Dieu vivant. Je veux vraiment vous encourager. Là où vous en êtes, s'il y a des épreuves, s'il y a des moments où vous avez besoin d'une consolation, des orientations pour les jeunes, c'est un Dieu vivant. Pour autant, on passe du temps dans sa présence. Il répond. Voilà. Amen.
J'ai David, son mari.
Ah oui, d'accord. Il y a trois positions. Ça va faire la troisième fois que je viens dans cette église. Et la quatrième fois. Et ça me fait toujours plaisir de venir à Lille. Chez Antoine, hier, on faisait encore la fête avec les petits-enfants Antoine. J'ai vu que c'était une famille très créative, hein, d'ailleurs. Ils fabriquent bien des œufs de Pâques. C'est impressionnant. Hein. Toute la maison se met en effervescence pour faire les œufs de Pâques. C'est impressionnant. Il faut voir ça quand même une fois dans sa vie. Non, je suis très content d'être ici. Moi, ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est déjà un petit peu d'où je viens et un petit peu ce que je vis. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui va être moteur dans notre vie parce que nous vivons tous la foi, mais aussi la grâce de Dieu. Et j'aimerais vous partager vraiment ce que moi je vis. Peut-être que certains vont se retrouver. Comment les étapes, ce que nous devons mettre en place pour pouvoir avoir aussi cela. Alors, tout d'abord, eh bien moi, je viens d'une famille chrétienne. Mon papa était pasteur de l'église de Bernay, une église qui est montée à peu près jusqu'à 80, 100 membres. Frédéric Fredo, qui est là, en a fait partie un temps. Une église qui a vécu des divisions, des moments difficiles, qui est tombée à quelques membres. Avec une vision qui était grande, puisqu'on a des locaux qui font à peu près 1000 mètres carrés. À l'intérieur, une salle qui est un peu plus petite que celle-là, mais dedans, il y a un coffee bar, il y a un appartement, il y a des locaux pour faire de la formation, de la radio, il y a tout ça. Et quand mon père a eu ça, dès qu'il a commencé à annoncer la vision, eh bien, l'ennemi a commencé à rugir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a tremblé. Et vous savez aussi bien que moi que quand Dieu commence à bouger, lorsque tout tremble, il y a ceux qui tiennent et ceux qui courent. Eh bien, l'église s'est vidée. Parce que ça commençait à être dur de vouloir commencer à travailler et à piocher pour pouvoir gagner la vision. Et par la suite, nous avons eu, mon père est parti à un moment donné, s'est retiré puisqu'il avait un autre appel. Et il y a eu des pasteurs qui sont passés successifs. Et à un moment donné, dans notre vie, eh bien, on a eu l'appel, ma femme et moi, ainsi que mon beau-frère, à être pasteur de Bernay. Loïc, mon beau-frère, est devenu pasteur au sein du APM, a fait tout ce cursus. Et avec un appel depuis l'âge de 8 ans que j'avais sur ma vie, d'avoir l'héritage de mon père. Et je ne sais pas si certains connaissent, moi j'ai eu la chance de connaître Gwen Shaw, qui est une américaine, et qui m'avait donné ça à l'âge de 8 ans. Quand vous avez 8 ans, vous gardez ça, c'est l'âge de ma fille. Dans votre tête, quelqu'un prie pour vous, vous sentez bien que le Seigneur, il tombe sur vous. Vous gardez ça sur vous, et vous vous dites, pourquoi pas? Et il y a de ça 8 ans, vraiment, la grâce de Dieu vient à travers cet appel, à travers vraiment une prophétie. Et là, on a commencé à rentrer dans un cheminement avec le Seigneur. Et cet héritage, on savait que ça ne serait pas à Bernay. Et mon père avait une autre vision, il est tombé malade, il n'a pas pu avoir cela, c'était de créer une église en Savoie, tout près d'Aix-les-Bains. Et ma mère, elle était vraiment pour ouvrir une église là-bas, j'ai une sœur aussi qui est là-bas, donc ils étaient vraiment pour ouvrir une église. Et pendant ces moments à Bernay, je disais au Seigneur, bien écoute, tu me veux là parce qu'il faut que je travaille avec mon beau-frère, ensemble, tu veux ? Pour un temps de formation ensemble, qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse se former avec, dans le caractère l'un à l'autre. Et là, nous avons eu la chance d'avoir Antoine qui était là et nous a quitté quelques temps, des fois pour passer du temps avec nous, pour pouvoir adoucir notre dos, nous arrondir, hein, on va dire ça comme ça, Antoine. Et on s'est entouré de personnes comme Vincent, comme Antoine, comme Georges Michel, des gens qui ont pu permettre, dans notre formation, de nous compléter. Et j'avais dit à Antoine, bah, écoute, si un jour tu entends quelque chose pour moi, parce que je sais que j'ai un appel et je ne sais pas encore ce que c'est. Et Antoine me dit, bah, écoute, là, il y a éventuellement une possibilité, et puis là, et puis là, et puis là. Puis moi, j'avais dit à Dieu, si jamais tu veux que moi je te serve, il faut qu'aujourd'hui tu puisses me donner une réponse claire, mais à moi. Et puis Antoine, eh bien, l'année dernière, au mois de mai, à la convention du APM, il vient me voir et il me fait « Tu sais, David, j'ai un jeune couple qui est parti à la montagne là-bas. Et toi, ça ne te dirait pas dans la partie sud-est, hein, à peu près, de la France ?» Il me dit « Il n'y a pas d'église implantée là-bas, ça serait bien pour toi. » Et comme à mon habitude, je dis à Antoine « Attends, tranquille, je ne suis pas sûr, je vais voir. » Et je rentre chez moi et dans la semaine, eh bien, le Seigneur m'a parlé vraiment très clairement, avec une vision très très claire des choses. Je prends la parole et je le lis à ma femme, et ma femme me regarde et me dit, ça ne peut pas être plus clair, je vois bien que c'est la montagne, je vois bien que c'est là-bas, et aujourd'hui, ça, on ne peut pas dire non. Et je dis au Seigneur, je dis, bah maintenant, c'est bien, moi je le reçois, mais j'ai besoin aussi que ma femme, mes enfants le reçoivent, et qu'aujourd'hui je puisse marcher dans la vision avec toi. Je dis parce que si c'est moi qui marche et qu'à un moment donné c'est difficile, comme mon père a pu le vivre lorsque les choses tremblent, eh bien lorsque l'autre il marche pas à côté de vous en tant que conjoint, eh bien c'est dur, c'est dangereux pour un couple. Alors j'avais dit au Seigneur, eh bien écoute, pour ma famille, moi ma priorité c'est ma famille, c'est ensemble. Et dans la semaine d'après, moi 4 ou 5 confirmations de personnes différentes, des gens qui ne nous connaissaient pas, qui nous rappelaient notre appel. Et là, ma femme a pu sentir cet appel, vraiment pour cette église. Et on a prié, on a commencé à jeûner avec mes enfants, parce qu'il fallait commencer à l'annoncer. Annoncer un départ lorsque vous faites partie d'une église depuis tout petit. Moi, j'ai vécu dans une église là-bas, je suis pasteur, je m'investis avec les gens, de dire qu'on va partir, c'est pas simple. Et j'avais demandé à Antoine, je dis, bah écoute, je sais pas quand est-ce qu'il faut que je le dise. Et Antoine me dit, écoute, par sagesse, je pense qu'il faut que tu le fasses assez tôt pour que ça puisse mûrir. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai vu que Dieu avait commencé à ouvrir la porte des cœurs. Et que ça soit dans la belle famille qui n'est pas chrétienne, eh bien pour eux, de partir, de laisser une maison, un travail, laisser une région, c'est quelque chose de fou. Mais avec Dieu, les choses de fou, c'est le Dieu de l'impossible. Et là, moi, j'ai compris cela. Je me suis dit, Seigneur, eh bien, écoute, si tu es là, eh bien, aide-moi avec ma femme vraiment qu'on puisse entrer et que tu puisses ouvrir vraiment cette bénédiction que toi, tu as pour nous. Nous l'avons partagée à UAPM au mois de janvier, à la pastorale. Nous avons été bien accueillis. Hein, Antoine, ça s'est bien passé. Et je remercie tout ce travail qui se fait avec Antoine parce qu'Antoine, il travaille aussi à la fédération pour nous. En tant que jeune, quand j'ai besoin d'un conseil, je l'appelle, je dis « Antoine, viens voir, quand j'ai un problème, un souci, quelque chose. » On l'appelle, on lui dit « Antoine, là je ne peux pas ouvrir la porte, mais toi tu as la clé. » Et je sais que ça c'est son ministère. Et nous à Bernay, on l'a reconnu comme apôtre. On lui a dit « Écoute, quand on a besoin de toi. » Et je le reconnais là et je voulais partager ça avec vous parce que des fois il s'absente, mais c'est pour des bonnes choses. C'est vraiment pour des bonnes choses. Alors voilà ce que je voulais vous partager un petit peu pour ma vie. Et donc nous partons dans la région d'Aix-les-Bains pour cet été. Voilà. Amen, ma femme me dit amen. Donc là, on a commencé à faire les procédures pour quitter le travail, vendre la maison. Et par la grâce du Seigneur, eh bien, nous allons vivre ce processus. Et nous sommes complètement dedans. Alors, cette étude que j'ai faite un peu, eh bien, c'est une étude qui m'est venue en fait un petit peu pendant que j'étais à Chindrieux, pendant les sports d'hiver. Là, j'ai été un petit peu là-bas et j'ai vécu des choses un petit peu surprenantes. Déjà, la première des choses, j'ai vu mon fils, c'était la première fois qu'il allait au ski, et il me dit, tu sais papa, c'est super, on va au ski, et vas-y, il m'en parle, et puis je lui dis, mais écoute, attends, on va apprendre à faire du ski, mais tu vas pas prendre de bâton, je vais t'apprendre. Alors là, il était déçu, il me dit, pourquoi? Parce que si j'ai pas de bâton, je peux pas apprendre à faire du ski. Mon fils commence à faire du ski, et au bout d'une heure, je commence à voir les larmes qui lui coulent, parce qu'en fait, il n'y arrivait pas. Pour lui, le ski, c'était quelque chose d'inné. Et Dieu m'a montré qu'à travers ça, eh bien souvent, lorsque nous marchons avec Dieu, on donne notre vie à Dieu et on croit que c'est inné, il faut que ça tourne. Vous souriez? C'est comme ça chez vous? Ah ben pas chez moi. Eh bien parce qu'il va falloir recommencer à travailler. Et Dieu me montrait qu'à travers ça, il fallait essayer dans la foi pour que la grâce puisse tomber. J'ai reçu l'appel à 8 ans, je vais en avoir 40. Tu travailles. Et vous allez vous apercevoir que ce que je vais vous apporter, qu'à travers la parole de Dieu, aujourd'hui le travail dans la foi pour que la grâce tombe dans l'appel que Dieu a pour ta vie est important. Ce n'est pas quelque chose, hop, je prends les bâtons, je descends, je dévale une piste noire le plus vite possible et je gagne les Jeux Olympiques. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche avec des rencontres avec le Seigneur où Dieu il commence à travailler dans ton caractère. Il commence à te demander dans ton caractère de te positionner dans ta vie, de refuser des choses et de changer des choses dans ta vie. Moi, ça va faire 40 ans et je sais qu'il y en a encore. Alors je souris parce que je me dis pas trop vite Seigneur quand même, hein, pas trop vite. Et j'étais un petit peu surpris, il y a 15 jours ma femme devait se faire opérer, enfin pas il y a 15 jours, il y a 10 jours. Il y a 10 jours, dans le Nord vous avez été servi aussi, vous avez eu un petit peu de neige, un petit peu hein. Eh bien, ma femme, elle se faisait opérer le mardi où c'était la meilleure journée pour tout le monde. Tout le monde était au travail. Et donc, elle devait se faire opérer à Caen où il y a à peu près une centaine de kilomètres, une heure de route. Et là, le chirurgien l'appelle le lundi et lui dit « Écoutez, Madame Gaillard, il va y avoir de la neige, on en a un petit peu sur Caen, là, c'est quand même pas mal bouché. Est-ce que vous venez vous faire opérer ?» Alors, je dis à ma femme, je dis « Oui, j'ai des pneus neige, on va se débrouiller. » Bref, on part le lundi soir, j'arrive le lundi soir, je dors chez la maman de Frédéric. On passe un bon moment ensemble, vraiment un bon moment avec Méma. Et puis le matin, je me lève, des congères partout, je pousse la voiture, je la porte, enfin bref, on met 40 minutes à la pousser, à la sortir. J'arrive tant bien que mal à l'hôpital et là, on attend. Moi, je m'étais préparé, mais lui ne s'était pas préparé. Il n'y a jamais eu d'opération. Toute la journée, il était injoignable. Quelqu'un d'important. Un téléphone portable, il n'y en avait pas. Il en a deux. Un du boulot, un perso. Il a un téléphone fixe. Il était bloqué chez lui. Il ne répondait à rien. J'étais étonné. Moi, je m'étais préparé pour quelque chose. Et lui aussi devait se préparer. Et dans notre vie, on doit commencer à se préparer avec Dieu. On doit commencer à se préparer pour un futur. Que tu sois jeune dans la foi, que tu ne connaisses pas Dieu, quand il commence à t'appeler, il commence à bouger dans ton cœur, il commence à te préparer vers une nouvelle personnalité. Et vous regarderez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont même changé de prénom. Dieu nous appelle à changer à l'intérieur. Et il va le faire à travers la foi en action à travers nous. Comment nous allons vivre notre foi? Ce matin, j'ai cru comprendre qu'il y avait un vent, une tempête, hein, Antoine, j'ai senti. Dieu va chercher un peuple intègre. des gens qui cherchent à être intègres avec Dieu. Ils cherchent une fiancée intègre. Ils commencent à chercher quelqu'un qui est dans l'échange avec lui, qui commence à vivre avec lui, dans une relation. Ma femme, tout à l'heure, a parlé de quelque chose qui est important. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie chrétienne, bien souvent, on vit la vie, on dit, voilà, tu es mon sauveur. Amen. D'accord, il est bien ton sauveur. J'ai un problème au boulot, eh bien Seigneur, viens m'aider. J'ai un problème, Seigneur, dans mes finances. Tu es mon sauveur, viens m'aider. Seigneur, tu es là et viens m'aider. Ah, il y a un petit passage qui dit après, mon Seigneur est mon maître. Et il y a une étape automatique avec Dieu. C'est qu'effectivement, s'il n'est pas tout à fait ton sauveur, qu'il le devienne. Mais qu'il devienne aussi ton Seigneur et ton maître dans ta vie. Parce que lorsque tu rentres dans ce processus de caractère qui change, qui devienne Seigneur et Maître, eh bien, nous commençons à voir la bénédiction et on commence à voir Dieu bouger avec force et puissance autour de nous. Parce que Dieu nous remplit de son Saint-Esprit. Et vous vous apercevez que les gens viennent autour de vous, ils sentent la présence de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas les mots qui les touchent, ils ne peuvent pas expliquer la présence de Dieu qui est avec vous. Alors, dans « Il est mon sauveur », c'est bien, on peut le témoigner, « Merci Seigneur, il est mon sauveur, mais il est mon maître », ça veut dire que là, Dieu commence à habiter en toi. Et comme Dieu, il a un plan dans ta vie, lorsqu'il est en toi, tout bouge autour de toi. Lorsque j'ai été au mois de février, j'ai un autre témoignage, j'ai rencontré une personne que je connais bien. Et cette personne, ça faisait des années qu'elle était là. Elle me parlait souvent de Dieu avec des choses bibliques. À chaque fois, elle me disait, « Oh, moi, je prie, et puis ci, et puis ça. » Et puis, je voyais bien, « Mais bon, l'Église, j'en ai pas trouvé une à mon goût. Elle est un peu compliquée. » Enfin, je voyais bien que dans son caractère, bon, elle aime bien Dieu, mais bon, s'il y a un week-end, j'ai des choses, ben, ça sera la priorité. Elle est un petit peu avec ce cœur-là. Et qu'est-ce que je fais au mois de février? Je la rencontre, une personne nouvelle. Je commence à partager un petit peu avec elle. Et vous savez ce qu'elle me pose comme question? Que penses-tu de moi? Vous regardez vos chaussures. Oh, formidable! Je lui ai dit, je suis heureux parce que j'ai vu quelqu'un qui commence à vivre sa foi. Non plus quelqu'un qui me parle de la foi, mais quelqu'un qui vit la foi, qui a une relation avec Dieu. Elle avait tout cet enseignement, elle avait emmagasiné tous ses prêches, elle allait sur Internet, elle se cultivait. Il n'y avait pas de souci avec ça. Mais lorsqu'elle a commencé à voir qu'il fallait cette relation de Seigneur et Maître dans sa vie, sa foi s'est mise en action. Les larmes ont commencé à lui couler, son caractère commence à être transformé. Et Dieu entraîne réparer sa vie à l'intérieur. Formidable. Alors je lui ai répondu, je lui ai dit, eh bien je vois quelqu'un marcher avec Dieu, main dans la main. Et je dis, bah, quand je vois ça, je dis, c'est extraordinaire. Tu es en train de changer, tu es en train de grandir. Personne ne t'enseigne, tu es en train de faire des expériences avec Dieu. Et nous avons besoin de faire des expériences avec Dieu. Nous avons besoin de faire des expériences avec Dieu. Parce que nous rentrons dans une maturité. Nous rentrons dans une maturité. Nous allons lire Éphésiens 2, 1 à 10. Alors ici, il paraît que vous êtes moderne. La Bible tombe du ciel. Moi, j'ai encore le vieux modèle de l'iPad. Il est tactile hein, aussi. Non, je vois tous les jeunes à l'église, ils sont tous avec leurs iPads, leur iPhone. Ils vont plus vite que moi. Alors excusez-moi, moi je mets un peu plus de temps. On va lire Éphésiens 2, du verset 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ce qui est un peu bizarre dans ce passage-là, c'est nous étions et vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Comme les autres. Ça veut dire que là, dans ce passage-là, ce sont des gens appelés. Et il parle de changement de caractère. Il parle qu'aujourd'hui, la nature, elle doit changer. Les choses que nous avions l'habitude de vivre avant, elles doivent changer. Elles doivent changer. Ce que nous voyons dans le monde, les convoitises, les choses comme ça, ça doit changer. Nous devons commencer à rentrer dans cette intégrité de cœur pour faire marcher notre foi, pour vivre la grâce de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause d'un grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et là, il va commencer à parler, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce qu'il nous a sauvés. C'est par grâce. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui va vivre à travers moi va vivre par grâce. Pourquoi ? Pas seulement parce qu'il est sauveur, parce qu'il est Seigneur et Maître de ta vie. Seigneur et Maître de ta vie. Alors la grâce va abonder à l'intérieur de ta vie. Et vous allez voir que c'est la grâce qui sauve. C'est la grâce qui reconstruit notre être. C'est ce que nous allons vivre par la foi. Ce matin, je voyais des jeunes intercéder. Amen. C'est à travers ça que vous allez changer. Vous allez vous battre. Vous allez commencer à mettre en action la foi. Vous allez commencer à mettre la grâce de Dieu en action. Vous allez voir des choses bouger. Vous allez voir. Moi, j'ai vu mes parents passer à travers leur foi. Ils m'ont éduqué dans la foi chrétienne. Et notre famille n'est pas mieux que tout le monde. Elle vit aussi des tempêtes dans la vie. Mon frère a eu un accident très grave de montagne. Il est tombé entre 30 et 40 mètres de haut dans la glace. Le cerveau complètement abîmé. Des mois de coma, de la rééducation, quelque chose de vraiment très pénible. J'ai vu mes parents mettre leur foi en action et s'attendre à la grâce de Dieu. Mes parents, ils sont passés à travers ce filtre-là. Mais je peux vous dire qu'à la sortie, leur caractère, la présence de Dieu dans leur vie était différente. Ils ont intercédé, pas seulement pour qu'ils sauvent, mais selon la grâce. Je me rappelle de cela parce que j'étais jeune, j'étais adolescent. À l'époque, j'avais 14 ans. C'était au moment de Noël. Il y avait le frère de Frédéric et de mon beau-frère Loïc qui était là. Et c'est lui qui nous a gardés. Et moi, j'étais adolescent, un peu rebelle à l'époque. Et mes parents apprennent ça. C'était à Chamonix, dans le glacier des Bossons. Ils faisaient de la cascade de glace. Il est tombé, ils ont mis à peu près 7-8 heures à le sortir, ils sont venus avec l'hélico, ils n'ont pas pu, ils ont dû élitroyer quelqu'un par les pieds, enfin c'était, voilà. Arrivé à Annecy, mon frère était dans un piteux état, sur un lit d'hôpital, des chrétiens ont accueilli mes parents en urgence, ils ont pris la voiture, ils sont arrivés. Mon frère à l'époque avait à peu près une vingtaine d'années, il avait 19 ans exactement, et à travers cela, eh bien, mes parents ont commencé à crier à l'Éternel. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut crier à l'Éternel quand c'est vraiment difficile. Que ça soit dans le combat, dans les bonnes choses, mais dans les choses à gagner, dans la foi, nous avons besoin de crier à l'Éternel. Et là, mes parents ont commencé à crier à l'Éternel. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont été voir l'hôpital. Eh bien, ils ont commencé à voir des choses du monde. Et là, on leur dit, votre fils, coma niveau 4, c'est fini. Vous savez qu'il y a différents stades dans le coma. Et en général, le 4, on reste un légume dans un lit intubé et ça s'arrête là. La foi a dû commencer à se mettre en place et en route pour leur vie. Seigneur, que penses-tu de moi ? Comment ? Que penses-tu de moi ? Mes parents sincères ont dit, Seigneur, nous, nous n'avons rien. Et aujourd'hui, tu nous demandes que la foi, il y a quelqu'un qui dit que mon fils ne se réveillera pas. J'ai besoin de ta parole qui me dit quelque chose, qui m'encourage. Ils ont commencé à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Au bout de 6-7 heures, d'un seul coup, une parole de Dieu, une paix vient inonder leur moment de prière. Et ce moment de paix a été tellement fort qu'ils ont eu une parole à l'intérieur. Il est dans ma main. C'est moi qui le tiens. Rien que ça, ça les a remontés à bloc pour le lendemain. Le lendemain, ils viennent à l'hôpital et à l'hôpital, on leur dit, eh bien, vous savez, votre fils, même s'il se réveille, il y a une partie du cerveau, le côté gauche, il est complètement abîmé. Votre fils sera paralysé d'un côté. Eh bien, mon frère s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, Dieu leur a dit, il est toujours dans ma main, c'est moi qui tiens tout. Eh bien, cette partie paralysée, elle n'était plus paralysée. Il ne verra plus parce que le cortex qui était juste derrière, au niveau des yeux, était vraiment tellement abîmé qu'il ne pouvait plus fonctionner. Le nerf était abîmé. Il ne verra plus. Amen, Seigneur. Ils étaient dans ce processus de foi. Et ils ont commencé à prendre la parole de Dieu, ce que Dieu leur donnait. Et ils ont commencé à gripper ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voit aujourd'hui, il marche, il est comme vous et moi. Moi, c'est à l'intérieur de mon cœur, quand je suis enfant. Vous dites, c'est possible ça, Seigneur? Alors si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Ça, c'est bon. On va lire la suite dans Éphésiens 2. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas parce que tu es sauvé et que tu fais des œuvres que tu vas monter au ciel et que tu seras à côté du Père. C'est bien parce que ta foi se met en action. Ce matin, il y avait les flyers là. Le jour où j'étais avec ma femme, elle n'était pas convertie. Je peux vous dire que ma foi, elle a dû se mettre en action. Je dis, Seigneur, tu vois, tu dis que c'est elle ma femme et moi je ne me marie pas si elle n'est pas chrétienne. Je n'ai pas fait de compromis. Mon cœur, il n'était pas avec un compromis. Il n'y avait pas de possibilité de compromis avec Dieu. Il n'y a pas de possibilité. J'ai dit à Dieu maintenant, moi j'ai besoin de voir ta grâce. J'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin que tu viennes à l'intérieur. Tu viennes donner la vie à cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Fou! Il n'a pas fallu beaucoup de temps. Hein? Mais Dieu savait que lorsque ma foi se met en action, Dieu change mon caractère. Il répond avec les bénédictions qu'il a pour moi. Aujourd'hui, je pars, je laisse tout, mais Dieu m'appelle avec un passage. Et quand c'est difficile, ma foi se met en action et je grandis à l'intérieur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Toutes les personnes qui sont ici, vous devez vous préparer pour faire des bonnes œuvres. Alors, pas s'étourdir par les moments, les sentiments de nos cœurs. Là-bas, c'est un peu plus chaud, le chauffage, ils ont payé les factures, on est bien. Là-bas, convention 4000 personnes, je suis bien. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche selon la grâce de Dieu qu'il a pour ta vie. Ça, c'est bon. Seigneur, il est bon parce qu'il nous appelle. Et puis, je vais au mois de février, là, j'ai un ami que j'ai connu assez jeune. et qui habite du côté de là où on va, qui est aussi appelé. Donc je ne vous partagerai pas tout parce que sinon on va... Enfin, je commence seulement le prêche, alors ça devrait aller. Un ami que j'ai rencontré, on ne sait pas pourquoi j'ai rencontré cet ami-là, mais cet ami-là, eh bien, j'ai la chance qu'il tient une agence d'intérim sur Genève, et donc pas très loin pour du travail. Et puis, David, eh bien, c'est un ami d'enfance, c'est un copain, je vais chez lui, on prend un coup ensemble, vous voyez, vraiment un copain, comme si je ne l'avais jamais oublié. Et je l'appelle, je lui dis, j'arrive dans la région, il va falloir du travail, est-ce que tu connais quelque chose? Et Dieu m'avait dit, je mettrai des anges pour toi, je travaille déjà pour toi, je prépare le terrain pour toi. Alors quand vous dites ça, bon, bah oui Seigneur, c'est vrai, tu as raison, tu es avec moi, et il faut que je me mette en action, alors j'y vais. Et David, il me dit, bon, écoute, j'ai quelqu'un, j'ai 4 autres personnes, là, je vais t'organiser des rendez-vous. Ok, premier appel. Deuxième appel, puis il me parle toujours d'une personne. J'ai quelqu'un, et puis tu sais, il y a quelqu'un, ce gars-là, il faut que tu le rencontres. Je dis, ouais, si tu veux, c'est toi qui vois, c'est toi qui connais les gens. Je le rappelle une troisième fois, il me fait, ouais, alors j'ai des chantiers, là, éventuellement, mais j'ai quelqu'un qu'il faut que tu rencontres. Et là... Je mets une journée où j'avais prévu faire des rencontres et des rendez-vous pour pouvoir passer des entretiens. Et là, David me dit, bah, écoute, on mange à midi avec ce gars-là. Je me mets en face de lui, je vois un petit monsieur qui arrive, un monsieur assez costaud, de mon âge. Il s'assoit, bon, on se présente. Et quand il se présente, déjà, je tombe un petit peu de haut, c'était le PDG d'une boîte qui s'appelle Lucibel, qui est à peu près le concurrent de Philips au niveau des LED. Donc, le PDG. Un gars tout simple, mon âge, ça commence à fuser, il commence à me parler un peu cœur à cœur, de savoir ce que je voulais, ce que j'attendais, si et ça. Et puis, l'entretien se passe bien, je commence à parler bateau, il avait passé son permis bateau, on passe bateau, et puis l'ambiance était détendue. Et au fond de mon cœur, dans le repas, le Seigneur me dit, maintenant, tu dois parler de ce que tu vas faire. Ok, Seigneur, attends, là, je viens pour faire un peu un entretien. Premier, le gars, il connaît quand même François Hollande. C'est une des meilleures entreprises en France l'année dernière qui a fait les meilleurs chiffres. Je dis, t'es sûr, là, le gars, il est quand même, c'est une pointure. Et j'étais là, je dis, écoute, Seigneur, maintenant, c'est ma foi qui se met en action. Je dis, bah, écoute, Seigneur, t'as prévu cette journée. Moi, j'ai rien fait. J'ai dit, Seigneur, tu travailles pour moi. Et là, à ce moment-là, le gars, il me dit, mais pourquoi t'habites pas Genève et ci et ça? Je dis, bah, parce que j'ai un projet professionnel, mais j'ai aussi un projet de vie. Ah ouais? Mais c'est un peu idiot parce qu'il va y avoir du temps, machin, rien. Je dis, bah, mon projet de vie, en fait, c'est d'ouvrir une église. Et le gars, il se met à rire aux éclats, véridique, et il me dit, je comprends mieux maintenant. Et il me dit, on se donne rendez-vous en septembre. J'ai rien écrit, j'ai pas appelé. Dieu était avec moi. Je rentre avec David à son bureau, dans son agence d'intérim. Il y a des gens un peu partout dans des bureaux. Lui, c'est le directeur et on rentre dans son bureau. Et là, il apprend le décès de son pasteur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Tu joues avec moi? J'ai commencé à prier avec David. J'ai commencé à intercéder pour lui parce qu'il a aussi un appel pour ça. Drôle de journée, j'allais chercher du travail. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on est dans la grâce de Dieu, c'est merveilleux. 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 Il peut être ton sauveur, mais Seigneur et Maître, c'est une dimension bien au-delà de ça. Alors, la foi, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est croire fermement qu'il est ressuscité. C'est avoir confiance en lui. C'est croire en toute chose, notre cœur, de renoncer à notre volonté. Ça, c'est compliqué. De notre volonté. C'est meilleur là-bas, j'ai la volonté d'aller là-bas, mais il faut que je renonce parce que Dieu m'a demandé d'être ici. Moi, si je m'écoutais, je suis plutôt bien en Normandie. Là, de partir de rien, c'est ma volonté qui se met en action. Et commencer à me consacrer vraiment avec Dieu. Consacrer du temps, commencer à chercher dans la parole, à commencer à prier, à me mettre en action. Et plus je fais ça, plus je vois que la foi à l'intérieur de moi, elle grossit. Je ne suis pas le même David que quand vous m'aviez connu. Avant, j'étais un peu hargneux. J'étais gentil, mais un peu teigneux quand même. Vous avez vu pourquoi il est chauve? Je vais le taquiner. Non, j'ai pas été toujours bien. Ça n'a pas toujours été simple, mon enfance. Mon adolescence, ma vie de jeune, ça n'a pas été toujours simple. Mon appel, ça n'a pas toujours été simple. Mais c'est la foi, à travers la foi, que Dieu m'a donnée. Dans ma relation avec lui, Dieu, il m'a fait passer à travers tout le temps à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Et je crois que je vais passer toute ma vie comme ça. Et nous allons tous passer notre vie comme ça. Dans Matthieu 3, 2, se repentir, se détourner du mal. Il a fallu que j'abandonne des choses. Moi, j'étais un sportif, plus maintenant, vous voyez bien. C'est pas le même sport, hein, le canapé. C'est pas... À genoux, on fait, c'est pas le même rythme cardiaque du tout. Et j'ai dû abandonner des amis de kayak. J'ai dû abandonner mes passions. Il y a des choses que j'ai dû abandonner. Parce que j'ai offert un sacrifice à Dieu. Ma foi. Du temps. De l'argent aussi. Consacrer mes enfants. Pour moi, ça demande tout ça. Et mon fils, quand on est parti au mois de février... L'appel, il l'a reçu au mois de février, on le sait depuis mai, avec eux, on jeûne et on prie avec mes enfants pour ça. Et mon fils, une nuit, il est réveillé, il me dit, « Papa, transplanté, j'ai eu ça cette nuit, transplanté. » Et il a partagé ça avec sa mère le matin. Ils ont cherché dans le dictionnaire ce que ça voulait dire, transplanté. Il a compris que Dieu allait nous prendre de Normandie pour nous emmener là-bas. Déraciné. Et là, ses yeux se sont ouverts. Il est d'accord pour l'appel. Parce que Dieu m'a promis que c'était ma génération, mais la génération encore après, et encore après. Je vais avoir transmettre un héritage. Nous avons tous un héritage un jour à transmettre à nos enfants. Quand je vois Antoine, et Antoine me parle souvent de ses enfants, il a bien travaillé. Parce qu'aujourd'hui, l'héritage, les enfants, ils ne partent pas sans héritage. Libre à chacun de prendre un héritage. Mais l'héritage qu'il a laissé, il est riche. Il est riche dans l'enseignement, dans les choses physiques peut-être, mais dans les choses spirituelles, il a laissé des choses. Il a laissé des choses et tous les jours, il a travaillé, travaillé, travaillé pour laisser un héritage derrière. Mon père, c'est ce qu'il a fait. Moi, je suis là aujourd'hui parce qu'il a laissé cet héritage-là. Mais c'est à moi d'aller le chercher maintenant, de le prendre. La foi, ça implique l'obéissance à Dieu, à sa parole, mais aussi d'être régénérée par son esprit, dans Jean 3, 3, 6. Elle est accompagnée d'une sanctification. Et on s'aperçoit que plus on avance avec le Seigneur, plus notre foi se met en action, même en tant que jeune chrétien, eh bien tous les jours, il y a des petites choses qui remontent, qui remontent, qui remontent. Et là, il est important, à un moment donné, de se dire, va peut-être falloir que je travaille ça. J'étais dans la colère et ça va plus pouvoir se passer comme ça. Mais je ne peux pas le faire moi-même. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Ce n'est pas quelque chose qui... Parce qu'il y a des émotions qu'on ne contrôle pas. Et dans la sanctification, c'est chaque matin, Seigneur, pardonne mes offenses. Je ne vais pas vous citer le Notre Père, mais c'est tout ça. La foi implique une dévotion, une confiance, un amour, une gratitude, une loyauté. Et la foi, vous savez qu'on la vit avec les frères et sœurs, personnellement. Ces choses-là, elles existent aussi à travers l'Église. Une confiance, un amour, une gratitude, une loyauté. On est là les uns les autres. Il y a des choses, des fois, qui ne nous plaisent pas. Mais nous travaillons en confiance, loyauté. On ne doit pas s'éparpiller. Et dans la foi, si tu commences à t'éparpiller, tu ne vas pas voir grand-chose. Tu ne vas pas voir beaucoup la grâce. Peut-être un temps, les émotions, ça va être un peu le show sur le moment. Mais quelques années après, de bonnes heures que tu vois grand-chose. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, quand il a fallu tenir l'église, qu'il n'y avait plus beaucoup de monde, moi j'ai vu prêcher des dimanches matin, il n'y avait plus que 3 personnes. Quand vous avez des bâtiments comme ça et qu'il y a 3 personnes en face de vous, t'as le feu ! T'as le feu, Antoine ! Comme il dit, pas simple. Confiance que le Seigneur, il est là, que la vision qu'il avait donnée à Bernet, existe et a existé toujours. On avait des loyers à rembourser. 3 personnes. Jamais une dette, tout a été couvert. Pourtant, il n'y avait pas 4000 personnes. Hein. L'autre jour, j'étais à une convention avec les jeunes l'année dernière. Ah bah, je suis sorti de là-dedans, j'avais les oreilles qui sifflaient déjà. Je vois, il y avait peut-être 4-5 000 watts. Là. Je suis sorti, ça sautait de partout. J'étais content pour eux, ils se réjouissaient, passaient un bon moment. Mais au-delà de ça, quelque chose m'a fait mal à mon cœur. On ne les incitait pas à vivre dans la foi. Et la foi, c'est quand même quelque chose d'important. C'est la base. Et aujourd'hui, tu donnes ta vie à Dieu, s'il commence à être Seigneur et Maître, ça change des choses. Ça change des choses. Et la grâce va permettre vraiment une transformation dans ta vie. Que penses-tu de moi ? Que penses-tu de moi ? Quand vous montrerez devant le Seigneur, que penses-tu de moi, Seigneur ? Es-tu fier de dire, j'ai été confiant, loyal, j'ai été amour. Là où c'était dur, tu m'as dit de tenir là, j'ai tenu. Je n'aurais pas à rougir devant toi. Ça, c'est une foi pure. C'est une foi sincère. Et tout ça, ça se fait dans une attitude pour gagner en maturité. Dans la confiance, l'obéissance, cela transforme de la loyauté, de la dévotion, de l'attachement très fort, de l'amour. Et moi, dans cette église, eh bien, je peux vous dire que je la quitte avec un grand regret. Parce qu'à travers toutes ces épreuves, toute cette foi, je l'ai aimé plus que toute chose. Eh ouais. C'est pas seulement ils ont payé le chauffage et je suis bien. Ça va au-delà de ça. Quand quelqu'un pleure dans mon église, je pleure avec lui. Quand il se réjouit, je me réjouis avec lui. Quand le Saint-Esprit vient visiter, oh, je suis heureux. Heureux. C'est ça d'avoir un cœur. C'est ça d'avoir une foi pure et sincère devant Dieu. Et la foi nous conduit dans une relation. Et Gwen disait, j'ai commencé à comprendre ce qu'était la foi. C'est une relation avec Dieu. C'est un chemin avec Dieu. Avec des moments en haut, des moments en bas. Mais un chemin avec lui, une relation. Quand on ne peut plus, il te demande de crier à lui. Crier à lui. Quand tu es dans la joie, que tu sautes, c'est une relation avec lui. Et la grâce, elle vient. La bénédiction coule. Il n'oublie jamais ses enfants. Je vais m'arrêter là, ce matin. Je pourrais parler encore aussi de la grâce après, mais je vais m'arrêter là. Et Vincent m'a dit quelque chose. Quand j'étais à la convention, il m'a partagé quelque chose à table et ça m'a touché. Il m'a dit, je vais dans une église et je vais prêcher ça. Et j'ai retenu quelque chose. Il m'a dit, tu sais, Abraham, David, Abraham, il a eu la foi, il a vécu avec Dieu des grands moments. C'était super. Il lui a montré où il fallait qu'il allait. Il est arrivé dans une terre. Et après, il lui a dit, bah, écoute, je vais te donner une descendance. Amen. Et il me dit, moi, je vais prêcher sur la période entre la descendance et sacrifier son fils. Et il me dit, j'ai cherché dans les textes, il s'est passé à peu près 20-30 ans avant qu'il sacrifie son fils. Pendant ces 20-30 ans, vous savez ce qui s'est passé? Rien. Et Dieu voulait voir la foi qui bouge, la grâce. Il a dit, vas-y, tu vas faire ça pour moi et je vais voir. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir vécu les plus belles choses avec Dieu. Tu ne peux rien faire pendant 30 ans. Tu peux être le meilleur des chrétiens. Tu peux être celui qui rentre dans une église, donne sa vie à Dieu et repart et il ne se passe plus rien. Moi, je crois que Dieu veut vraiment qu'on vive dans la foi pour nous fortifier, nous faire grandir dans les choses. Ça nous transforme. Transformer. Vous voyez, les disciples, comment le caractère il a été changé dans la foi. Pourtant, ils marchaient quand même avec Jésus. On aimerait bien tous marcher avec Jésus. Moi, j'ai depuis tout petit, je me dis, disons, ça devait être super d'être avec lui. Et en fin de compte, il marchait à côté d'un voleur. Hein, et... Judas, il piquait dans la caisse, il marchait avec lui. Judas, il faisait des miracles et tout. Mais ils ont vécu dans la foi. Et vous voyez que celui qui était même violent, c'est celui qui a fait les plus beaux versets sur l'amour. Ça veut dire que tes passions à l'intérieur, toutes tes pensées, tout ce que tu penses, tout ce que tu es, Dieu peut les transformer pour que tu fasses des choses pour lui. Et tout ça, ça se passe à travers la foi. Alors, je ne sais pas si Antoine me permet, mais j'aimerais faire un appel. Est-ce que le Seigneur, il est maître et sauveur dans ta vie? Est-ce qu'il est sauveur? Il est sauveur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas donné sa vie ce matin. On va déjà prier pour celui qui n'a pas donné sa vie. Est-ce que tu choisis de marcher avec Dieu? Il y a quelqu'un? On peut se lever? Est-ce que quelqu'un a besoin de connaître Dieu ce matin comme sauveur? Peut-être dans une situation. Il n'y a pas à juger là où tu en es avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être sauvé d'une situation dans le péché? Parce qu'il sent qu'il n'y arrive pas. Il sent qu'il y a des choses qui ne coulent pas. Est-ce que d'une situation d'angoisse, parce que tu n'arrives pas à voir le bout. Eh bien, moi, je veux bien prier avec toi ce matin. Je veux bien que l'Esprit de Dieu, qui est sauveur, descende sur toi, sur ce moment-là. Est-ce qu'il y a une personne dans cette situation-là? Quelqu'un qui veut goûter à Dieu, sauveur. Je fais un appel vraiment, parce que est-ce que Dieu te sauve des situations ou est-ce que c'est toi qui te sauves des situations? Ce n'est pas la même chose. Approche. Alors, pour arriver à ça, que Dieu soit ton sauveur, il faut commencer à déposer son péché sur la croix. Déposer que tu ne peux pas faire les choses. Que les choses, tu les déposes devant, au pied de la croix. Moi, je vais prier pour que Dieu soit ton sauveur maintenant dans la situation. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, tu vois, je ne connais pas la situation. Mais Saint-Esprit, maintenant, viens maintenant en tant que sauveur dans la situation. Sauveur, sauveur dans la situation, ô Éternel. Mais aussi maître et Seigneur dans la situation, Seigneur. Tu viens dans sa vie en tant que maître et Seigneur, pour y habiter, Seigneur. Montre-lui que sa foi qui bouge les montagnes, Seigneur, aide-la, Seigneur, ô Éternel. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, descends maintenant sur elle. Descends avec force et puissance sur elle. Seigneur, tu lui donnes la paix, la joie et la justice en toutes choses, ô Éternel. Saint-Esprit, maintenant, viens visiter cette situation. Que tu puisses venir, Sauveur, Seigneur et Maître. Que tu puisses goûter à la bénédiction de Dieu pour ta vie, à l'appel de Dieu pour ta vie. Là où tu es, même si c'est dans des choses simples, Dieu t'a choisi pour être l'épouse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. À ce que Dieu puisse vraiment diriger leur vie. Parce que Seigneur et Maître, eh bien, ce n'est pas si simple que ça. C'est dans des petites choses, des petits détails, dans nos finances, lorsque nous donnons, lorsque nous commençons à vouloir prêcher, à vouloir nous mettre en action. Est-ce que le Seigneur, il est vraiment Seigneur et Maître? Tu as un appel peut-être? Tu as peut-être des fonctions dans l'Église? Est-ce que Dieu est vraiment dans le Seigneur et Maître? Est-ce que dans la vie de tous les jours, les choses ne te rattrapent pas trop vite? Est-ce que tu vis une foi Seigneur et Maître avec Dieu? Parce que je sens ici qu'il y a des gens, ce n'est pas Seigneur et Maître. Pas complètement. Pas complètement. Dieu me dit, il y a des gens où les choses ne sont pas complètes. Il n'est pas Seigneur et Maître. Tu tiens les rênes. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que ce matin, tu t'avances, tu fasses un pas. Je prierai pour vous. Mais si tu fais un pas, Dieu en fera 2, 10 avec toi. C'est reconnaître. C'est reconnaître. Et Dieu voit cela. Il est fidèle et bon avec ça. Seigneur et Maître, comment me vois-tu, Seigneur? Que dis-tu de moi? Ce matin, posez-vous cette question. Que dis-tu de moi? Je suis rentré dans cette église et Dieu était à la porte et vous pouvez lui poser, que dis-tu de moi? Que dis-tu de moi dans ma vie? Est-ce que tu penses que ma vie rend gloire en tant que Seigneur et Maître? Je suis ton ambassadeur dans la vie de tous les jours, Seigneur. Est-ce que tu es vraiment, est-ce que j'ai cet esprit d'être ambassadeur dans le monde pour toi? Alors si ce n'est pas cela, avance-toi. Et le Seigneur me dit, il y a des gens, ce n'est pas encore dans la totale liberté avec Dieu. Avancez-vous, il n'y a pas de jugement ce matin. Avancez-vous. C'est tout. C'est le moment ce matin. C'est le moment de dire, peut-être que j'ai un peu d'orgueil, peut-être que là je maîtrise un peu trop. Laisse les choses, avance-toi, demande pardon. Le Seigneur va commencer à investir ta vie. N'en aie pas peur. Si tu veux voir les grâces, si tu veux être sauvé selon la grâce, il est temps de le vivre. Seigneur, bien tu vois maintenant, tu es Dieu Tout-Puissant. Tu es son Sauveur. Tu es son Seigneur et son Maître. Seigneur, maintenant tu libères, Seigneur, oui, cet esprit d'adoration. Tu libères maintenant, Seigneur, cette adoration au nom de l'Éternel. Libère, Saint-Esprit. Libère maintenant. Libère maintenant sa vie. Libère maintenant, Seigneur, sa vie. Libère maintenant, Seigneur, sa vie. Que tu deviennes Seigneur et Maître. Seigneur et Maître dans sa vie. Qu'il devienne un adorateur devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Tu investis toutes les parties de sa vie, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les parties où tu n'es pas Maître et Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant, Saint-Esprit. Reçois. Reçois maintenant. Libère-le maintenant, Seigneur. Libère-le maintenant. Libère-le maintenant. Libère-le maintenant. Au nom de Jésus, libère-le. Alléluia. Seigneur, tu vois, je te prie aussi, Seigneur, pour cette âme, Seigneur. Que tu deviennes Seigneur et Maître, Seigneur. Tu connais la sincérité, la confiance, Seigneur. Et dans les domaines où tu ne domines pas tout, Seigneur, tu vois, dans cet avancement, Seigneur, tu connais les cœurs sincères. Tu sais celui qui marche avec toi, qui marche simplement comme un enfant, qui dit, bien, Seigneur, deviens Seigneur et Maître dans toutes les situations. Tu connais, Seigneur, ce que j'engage. Eh bien, Seigneur, maintenant, deviens Seigneur et Maître pour lui. Que la foi se mette en action, Seigneur. La foi, Seigneur, commence à faire le ménage dans sa vie. Révèle les choses qu'il a besoin de balayer, Seigneur. Mais montre aussi, surtout, Seigneur, l'appel dans sa vie, Seigneur. Là où il a besoin de marcher avec toi, en tant que Seigneur et Maître, parce que tu es avec lui, Seigneur. C'est toi qui ouvres les portes pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela. Reçois cela. Alléluia, Père éternel. Alléluia. Alléluia. Que la paix, la joie et la justice de Dieu soient aussi avec toi.